CFM en Tarn-et-Garonne, le mag.
Le mag politique, comme chaque jeudi, avec Kader Youb pour Politiquement Votre. Bonjour Kader.
Bonjour Aurélien, bonjour à tous.
Rémi.
Rémi. Bonjour. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Pardon. Aujourd'hui, Franck Bousquet, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts du Tarn-et-Garonne et conseiller d'opposition à la mairie de Moissac, membre du groupe Territoire et Moissac Solidaire. Bonjour Franck Bousquet, bienvenue à vous sur CFM Radio.
Bonjour, merci de me recevoir.
Nous allons avec vous aborder plusieurs chapitres et notamment celui qui colle à votre actualité, celle de votre parti, notamment la primaire qui a vu désigner le candidat Yannick Jadot qui portera vos couleurs pour l'élection présidentielle de l'an prochain. Nous ferons un tour sur les enjeux climatiques auxquels sont confrontés plusieurs pays, tous les pays du monde et notamment bien sûr le nôtre, la France, et un retour aussi sur votre travail de conseiller municipal d'opposition à la ville de Moissac. Un mot tout d'abord, si vous le permettez, sur le pass sanitaire. Le gouvernement a annoncé l'utilisation, a prolongé l'utilisation du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Au-delà de la crise sanitaire, qu'est-ce que cela dit, selon vous, de notre État, de l'État de notre société ?
Ne serait-ce que la mise en place du pass sanitaire dit beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on était dans une situation, effectivement, où de nombreux Français n'étaient pas vaccinés, où de nombreux Français avec des comorbidités, avec un âge avancé, n'étaient pas vaccinés. Et on a choisi un dispositif qui était un dispositif s'appliquant à l'ensemble de la population et finalement triant entre ceux qui étaient vaccinés ou pas vaccinés pour des activités culturelles, pour aller au restaurant, etc., sans finalement faire ce qui était nécessaire dès le départ, c'est-à-dire s'adresser aux populations les plus fragiles, celles qui avaient une nécessité absolue de vaccination, mais effectivement, comme souvent, le gouvernement a pris une décision qui était une décision refusant de choisir et appliquant une politique qui était une politique finalement qui était assez peu adéquate avec la situation qui était la situation sanitaire au moment où il a décidé.
Est-ce que vous y voyez des conséquences de cette prolongation ? Est-ce que vous pensez qu'il y aura des conséquences ?
Après, les conséquences, elles sont multiples. C'est-à-dire qu'on va d'urgence sanitaire, de passe sanitaire, en un état d'urgence après les attentats. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt dans une situation d'état d'urgence. Et à un moment, il faudra, plutôt que d'agir effectivement sur les conséquences, essayer de regarder, d'agir sur les causes, parce qu'on ne pourra pas rester éternellement dans une situation d'urgence, éternellement dans une situation d'exception. L'état de droit, ça existe. L'état de droit, il doit s'appliquer. Et effectivement, si on continue à n'agir que sur les conséquences et jamais sur les causes, on sera sans arrêt dans une situation de ce type-là.
Et cet état d'urgence ou cette disposition de vigilance sanitaire, c'est le terme exact qui a été choisi par le gouvernement pour remplacer l'état d'urgence, est-ce qu'il aura ou est-ce qu'elles auront ces dispositions des conséquences sur la société en elle-même, selon vous ?
Écoutez, tout a des conséquences sur la société. C'est-à-dire que toutes les décisions qui sont prises finissent par avoir des conséquences qu'on ne mesure pas quand on les prend. Celle-là, comme les autres, elle en aura, d'autant plus, effectivement, qu'on peut considérer qu'en restreignant encore les libertés, on est dans une situation où on va s'habituer à ne plus sortir. Enfin, regardez l'étude qui est sortie hier sur les pratiques culturelles des Français. On s'aperçoit effectivement que la fréquentation des cinémas, la fréquentation des théâtres, la fréquentation des lieux culturels a fortement baissé. Elle n'a pas repris, effectivement.
Au profit des plateformes.
Au profit, tout à fait, des plateformes. C'est-à-dire que à la place d'une consommation culturelle locale, on se retrouve dans une consommation culturelle mondialisée qui est complètement coupée du rapport humain. Et oui, les conséquences, elles sont multiples sur le fonctionnement de nos sociétés, mais on les mesure avec le temps, effectivement. Et malheureusement, aujourd'hui, on mesure déjà des décisions, les conséquences de décisions qui ont été prises il y a des années de ça.
Dans quelques mois, Franck Bousquet, le mandat de le d'Emmanuel Macron à la présidence de la République va s'achever. Quel bilan faites-vous de ce bilan globalement ?
Disons qu'Emmanuel Macron a été élu sur une promesse, la promesse du « en même temps ». En même temps, c'est-à-dire on était en même temps à droite, en même temps à gauche, en même temps écologiste, en même temps productiviste. À la fin du mandat, on peut faire simplement le constat qu'en même temps, ça ne marche pas.
Ouais, ça ne marche pas, mais avec des circonstances exceptionnelles. Tout de même.
Toutes les circonstances sont exceptionnelles. Le mandat de François Hollande était marqué par des circonstances exceptionnelles qui étaient effectivement les attentats. Le mandat de Nicolas Sarkozy était marqué par des circonstances exceptionnelles qui étaient la crise de 2008. Donc tous les présidents sont marqués par des circonstances exceptionnelles. Cela, effectivement, ne doit pas les empêcher d'avoir une politique qui soit une politique avec un cap, une boussole, ce que n'a pas eu Emmanuel Macron. Le « en même temps », ça n'a jamais fonctionné.
Franck Bousquet, le développement durable est au cœur des politiques énergétiques et climatiques. Considérez-vous que ces trois dimensions, l'économie, le social, l'environnement, sont bien équilibrées en France ou faudrait-il aller plus loin ?
Aujourd'hui, aucune des dimensions ne va assez loin. Aucune des dimensions ne va assez loin. La dimension sociale ne va absolument pas assez loin. On sait tous que les conséquences de la crise climatique, ce sont les plus faibles qui vont les supporter, les premiers et les plus forts. Donc c'est vis-à-vis d'eux, effectivement, qu'il faut avoir une politique sociale la plus claire possible. Économiquement, on a fait aucun choix. Les choix économiques qui sont faits depuis des années ne correspondent absolument pas aux engagements qui étaient ceux de la COP21. La décarbonisation de l'économie n'a pas commencé. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de choix. Et quant au troisième pôle, c'est-à-dire le pôle environnement, là on en est aussi à une situation de non-choix. Hein. Les choix sur la biodiversité ne sont pas faits. On continue à avancer. Si vous voulez, il y a une image qu'on pourrait... utiliser. C'est celle des dirigeants qui étaient à la tête de tous les pays européens avant la guerre de 14. Ils avançaient sans se poser de questions. Ils voyaient bien que devant eux, il y avait un mur, que les tensions augmentaient, que tout ce qui était en train de se passer était dramatique, qu'il y avait des tensions coloniales, qu'il y avait des tensions entre les pays, qu'économiquement, ça ne fonctionnait plus, qu'on était dans une situation où il y avait des chocs entre tous. Et ils continuent à avancer comme s'il ne se passait rien, comme avant. Et les historiens nous disent, quand on étudie effectivement les politiques qui ont été menées jusqu'en 1914, tout le monde avançait comme si de rien n'était, alors que tous les voyants étaient au rouge. Aujourd'hui, les voyants sont au rouge et tout le monde avance comme si de rien n'était.
Incendies gigantesques un peu partout dans le monde, inondations, canicules, records de température en France et ailleurs. Tout a été dit, tous les mots ont été employés, mais la catastrophe est là. Et pourtant, personne ou presque au niveau mondial ne décrète une véritable mobilisation générale. Pourquoi cet attentisme, Franck Bousquet ?
Cet attentisme a plusieurs raisons. De toute façon, c'est toujours très difficile d'aller contre un système qui s'est inséré dans l'ensemble de nos façons de vivre. On est dans un système productiviste qui, on le sait maintenant depuis... Il n'a même pas fallu attendre les premiers rapports du GIEC. Si vous regardez les études qui sortent aujourd'hui, des entreprises comme Total sont au courant effectivement du réchauffement climatique et des conséquences de leur activité depuis le début des années 1970. C'est-à-dire aujourd'hui, ça fait plus de 50 ans qu'on le sait. Sauf que, effectivement, de lobbyistes en lobbying, de grandes entreprises ne pouvant ou ne voulant pas changer leur modèle, de manque de volonté politique de la part de ceux qui nous gouvernent parce que, effectivement, l'horizon de leur gouvernement, c'est 5 ans et la réélection au bout de 5 ans et rien de plus dans une projection dans l'avenir, vous accumulez effectivement tous ces éléments-là et vous vous retrouvez dans la situation dans laquelle on est.
Est-ce qu'au fond, les intérêts du capitalisme, du libéralisme ne sont pas trop puissants au final, et l'écologie, elle n'arrivera que...
Il faut arriver aujourd'hui à faire en sorte qu'on soit dans une situation où on préserve les acquis de la République, à savoir l'égalité, la fraternité et la liberté. Ce qui est les acquis du monde qui s'est construit au XVIIIe siècle, c'est le monde des Lumières. Et qu'on arrive en même temps, le coup, j'emploie moi aussi le terme, mais à prendre en compte ce qu'on a pris en compte au XVIIIe siècle, c'est-à-dire ce qu'on nous disait la science. Qu'est-ce qui s'est passé au moment des Lumières et à la Renaissance? On a eu des découvertes scientifiques qui nous ont dit « voilà quelle est la situation du monde, voilà comment ça fonctionne ». Et effectivement, ceux qui ont dit ça, ils ont été taxés d'hérésie, souvenez-vous, Galilée, Copernic, etc. La Terre ne tournait pas autour du Soleil. Sauf que, effectivement, oui, la Terre, elle tournait autour du Soleil. Sauf que, oui, effectivement, aujourd'hui, l'urgence climatique, elle est là. Donc, il y a des acquis de la science. Donc, ce qu'on propose, nous, au point de vue écologiste, c'est simplement de revenir au fondement de ce qu'est notre système. C'est-à-dire, il faut faire confiance à la science, parce que la science nous dit des choses, et en même temps, il faut garder les acquis en termes de liberté et en termes de social.
Franck Bousquet, on poursuit cette discussion après une courte pause.
Porte l'eau, porte la vie. Du ciel à ton seau, le jour et la nuit, c'est de l'or entre tes mains. Chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Porte l'eau, porte-la bien, surtout fais attention, ne renverse rien. Fais l'effort, tu le sais bien, chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Mais tu sais, les lions sont vraiment des reines, leur amour elle donne et plus jamais ne le reprennent. Le soleil les assomme, fait monter leur peine. Oui, tu sais, les lionnes sont vraiment, vraiment des reines. Porte l'eau, porte la vie. Tu dois courber le dos pour un peu de pluie. C'est de l'or entre tes mains. Chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Mais tu sais, les lionnes sont vraiment des reines. Leur amour, elle donne et plus jamais ne le reprennent. Le soleil les assomme, fait monter leur peine. Oui, tu sais, les sont vraiment, vraiment des rêves. C'est l'espoir qui revient, c'est la vie qu'elle ramène. Dans leur seau bien plein, fatigué mais toujours sereine. De la terre et des hommes, elles sont les gardiennes. Et tu sais, les lions sont vraiment.
Yannick Loin, les Lyonnes sur CFM Radio. Vous écoutez Politiquement Votre avec Kader Youb qui reçoit Franck Bousquet pour Europe Écologie Les Verts en Tarn-et-Garonne.
Oui, Franck Bousquet, on reprend notre discussion, notre entretien. Il y a un peu plus d'un an, plusieurs grandes villes avaient basculé dans votre camp chez Europe Écologie Les Verts. On a beaucoup critiqué certaines décisions médiatiques prises à l'époque. On se souvient de celle du maire de Bordeaux ou celle de Lyon sur la place du Sapin de Noël. Enfin, quelques petites décisions, mais qui, au final, ont quelque peu accaparé l'espace médiatique, comme si, finalement, Europe Écologie Les Verts avait pénétré le champ médiatique par effraction. En tout cas, c'était ce qui avait été dit à l'époque.
Oui, je pense que la façon dont ont été couvertes certaines décisions qui n'avaient finalement pas d'autres objectifs que d'être symboliques, la façon dont elles ont été couvertes témoigne du fait que pour un certain nombre de responsables politiques, mais aussi pour un certain nombre de responsables médiatiques, la vision de l'écologie est tout à fait anecdotique et qu'en plus il refuse effectivement de franchir le pas qu'on vient d'évoquer lors de la conversation précédente, c'est-à-dire que il y a un vrai danger pour eux quant au modèle, au nouveau modèle qui peut être présenté et qui pourrait représenter ben, la fin d'un certain nombre de fonctionnements qui sont les fonctionnements productivistes dont on parlait tout à l'heure. Et je pense que le fait de se centrer, de se concentrer sur ces décisions, ma foi, picrocollines, hein, c'est-à-dire qui n'ont finalement aucune importance autre aucune que symbolique,
sur la, voilà. sur la
c'est et de, d'y insister dessus. Alors là, pour le coup, je pense qu'il y avait une vraie volonté, et ça a été théorisé du point de vue du gouvernement, hein, d'éléments de langage pour les ministres, où il fallait effectivement insister sur le Tour de France, le sapin de Noël, que sais-je encore, le menu végétarien.
La crèche.
Voilà. Des choses qui finalement sont anecdotiques dans les politiques menées, mais qui permettent de faire des points de cristallisation pour l'opinion et de continuer dans ce climat de radicalisation, parce que c'est un climat de radicalisation en général, qui enferme les écologistes dans une image qui n'est pas du tout celle qu'ils devraient avoir. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, en termes de responsabilité, je pense que ce que nous proposons est aujourd'hui ce qui est le plus responsable par rapport à l'état du monde.
Ouais. Sur vos propositions responsables, comme vous dites, il y a une actualité qui revient avec insistance, c'est l'arrivée prochaine, nous l'espérons en tout cas, de la LGV. Tous les voyants sont au vert, puisque pratiquement tous les financeurs qui vont venir financer ce projet ont donné leur accord. Est-ce que finalement, vous avez décidé de jeter les armes à ce sujet ?
Alors, pas du tout.
Non ?
Ah non, je pense que la LGV, c'est le symbole d'un enfumage qui est en train de se développer, alors en particulier avec un certain nombre de politiques locaux, mais aussi un certain nombre de médias locaux. Alors je vais vous expliquer pourquoi, très simplement.
Hein, très rapidement, parce qu'on va passer sur...
Très rapidement, sur le coût de la LGV. Déjà, on a un coût qu'on ne connaît effectivement pas. Au printemps, on nous annonce 9 millions d'euros. Aujourd'hui, 9 milliards d'euros. Milliards. Aujourd'hui, on nous annonce 12 milliards. Hier, le conseil départemental du Tarn-et-Garonne vote une subvention de 100 000 euros en affichant un budget de 12 milliards, sachant que l'État a dit qu'il participait à 4 milliards.
4 milliards.
Ouais, et que ça représentait 40%. Donc pour moi, 4 milliards, ça ne représente pas 40% de 12 milliards. Donc ça, il y a une première chose sur le coup, c'est-à-dire on avance dans le flou. La deuxième chose, c'est que effectivement, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour la vie des Montalbanais ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous dire, aujourd'hui, vous êtes à une heure d'Agen.
Oui.
45 minutes, même pas. Vous êtes à 45 minutes d'Agen, qui est à 3 heures de Paris. Agen est à 3 heures de Paris en TGV. Vous prenez le TGV à Agen, vous êtes à 1 heure de Bordeaux, et vous êtes ensuite à 2 heures de Paris. Donc, ce que vous allez gagner, c'est d'aller prendre le train à Bressol, quand il va s'arrêter, parce que si vous regardez les plans de la SNCF, il s'arrête à Bressol et à Agen 2-3 fois par jour. C'est-à-dire que la plupart des trains partent directement de Toulouse pour aller à Bordeaux et ne s'arrêtent pas ici. Donc vous allez peut-être aller prendre le train à Toulouse. Quand vous voulez le prendre. Ce qui fait qu'en termes de temps, vous ne gagnerez rien. Et le symbole de cette LGV, c'est une métropolisation complète et totale, qui est celle de la politique mise en place depuis des années et qui mène à la situation qu'on a vue il y a quelque temps avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire un abandon complet des territoires ruraux, un abandon complet des villes moyennes. Et ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ceux qui dirigent les villes moyennes, ceux qui dirigent les territoires ruraux, ils ont, pour certains d'entre eux, si vous compris êtes... ça. Et, oui, c'est-à-dire, et je vais terminer sur le financement. C'est-à-dire que sur le financement, attendez. Attendez, le conseil départemental du Lot-et-Garonne n'a pas voté.
Oui, bon, on va attendre.
Mais oui, oui.
Monsieur Bousquet, votre... un de vos amis, le maire de Bordeaux, qui est d'Europe Écologie Les Verts, allez lui dire aujourd'hui, on arrête la LGV, finalement... Non, mais
vous voyez, il n'est pas question d'arrêter les TGV qui existent. Il n'en est absolument pas question. Il est juste question de se dire que les 12 milliards d'euros qui sont proposés pour construire quelque chose qui va faire gagner aux Montalbanais 10 minutes, ou peut-être leur faire perdre du temps s'ils vont prendre le train à Toulouse, parce que là, en plus, il faudra les prendre à Bressol, il faudra les se garer. Enfin, arrête, voilà. Une artificialisation des sols. Voilà. Et en plus, attendez, le tout, c'est que ces 12 milliards d'euros, si vous les mettez dans les transports du quotidien, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que le prix de l'essence augmente, qu'on va être obligé de décarboner nos voitures. Hein. Nos voitures, c'est déjà un produit de luxe, ça sera encore pire dans les années à venir. C'est-à-dire que circuler en voiture, ça va devenir de plus en plus compliqué, et ça va devenir de plus en plus compliqué pour les classes moyennes et populaires. Résultat, ces 12 milliards d'euros, si on les injectait sur notre territoire pour avoir des transports du quotidien, pour améliorer ne serait-ce que les nœuds de transport, développer des questions de covoiturage, développer les lignes qui existent, parce que les lignes de train, il faut absolument les développer, il faut absolument les rénover, il faut peut-être en construire des nouvelles, des lignes du quotidien aussi. Voilà. Mais je pense que les projets à 12 milliards d'euros qui sont faits pour les métropoles aujourd'hui, ce sont des projets qui ne sont plus adaptés au monde dans lequel on vit. C'est pire que le monde d'avant, quoi. Non. C'est bien pire que le monde d'avant.
Franck Bousquet, on va passer à Moissac, si vous le permettez. Vous êtes donc conseiller municipal d'opposition, je le disais en introduction de cette émission. Vous faites partie du groupe Territoire et Moissac Solidaire, avec Estelle Mamie. Quel regard portez-vous sur un peu plus d'un an de mandature de Romain Lopez à Moissac ?
C'est très compliqué la vie politique à Moissac aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'on a un maire et une majorité d'extrême droite qui finalement n'ont aucun projet pour la ville. C'est-à-dire que si vous regardez ce qu'ils proposent, des projets pour la ville, ils n'en ont pas. Leur seul projet, c'est de communiquer sur leur idéologie. Et pour le coup, le dernier coup médiatique de Romain Lopez, sa fameuse vidéo sur Facebook où il réclamait, où il disait couper les aides sociales municipales à une famille d'un jeune délinquant.
Vous avez fustigé cette décision du maire de Moissac.
J'ai absolument rien fustigé. J'ai dit que c'est de l'enfumage complet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la famille en question ne touche pas d'aide municipale. Les aides municipales données, les aides sociales municipales, c'est un montant. Je vais vous parler des faits. Ça, ce sont effectivement les faits. Les aides municipales, c'est un montant ridicule, c'est-à-dire ça s'élève entre 15 et 100 euros pour des personnes. Elles sont exceptionnelles, c'est-à-dire sur un dossier exceptionnel. Et pour le coup, jamais, moi j'ai été adjoint à la culture, il y a deux mandats de ça, sous le mandat de Jean-Paul Nunzi, jamais on a donné d'aide à une famille qui ne s'est pas présentée quand on lui a demandé de se présenter parce qu'il y avait un problème quelconque de délinquance. Jamais. Sauf qu'effectivement, on ne fait pas des vidéos sur les réseaux sociaux pour dire, voilà, nous, on coupe les aides parce que... Ce qu'il fait, c'est quoi ? C'est de la politique nationale. Peu lui importe ce qui se passe à Moissac, il fait de la communication. On ne fustige rien du tout. On vous dit juste ce qui se passe réellement aujourd'hui à Moissac. C'est-à-dire, c'est un maire qui ne fait que de la communication en faveur d'une idéologie d'extrême droite. Des projets pour la ville, il n'en a pas. Regardez, par exemple, ce qui vient de se passer pour le tribunal. Le tribunal, il y a des appels d'offres qui tombent partout, du point de vue de l'État, du point de vue de la région, pour faire des tiers-lieux qui regrouperaient des nouvelles activités économiques, qui regrouperaient des activités culturelles. Aujourd'hui, le tribunal a même été choisi par Stéphane Bern pour faire partie du loto du patrimoine, etc. Donc il y avait plein de feux verts. Mais qu'est-ce qui se passe ? Rien. Il ne se passe rien parce que des projets pour la ville, il n'y en a pas. Des projets urbains, alors, il n'y en a aucun.
Comment vous expliquez, Franck Bousquet, que finalement, Romain Lopez a été élu en mars, juin 2020, et qu'un an après, il triomphe encore aux élections départementales ? Il n'y a pas une dichotomie, finalement, dans cet état de fait ? Est-ce que vous regrettez, finalement, qu'il n'a pas le projet ? Mais un an après, il emporte largement... au départemental.
Je vais vous dire quelque chose. Je pense
très rapidement, parce que le temps, malheureusement... Allez-y.
La communication, ça fonctionne. Il est très présent sur les réseaux sociaux. Il a une armée de fans sur les réseaux sociaux qui ne sont pas forcément des fans moissagais. Ça fonctionne. Et ensuite, la situation de la ville de Moissac est catastrophique. Et là-dessus, je pense que personne ne vous dira le contraire. C'est-à-dire que vous connaissez le roman de Steinbeck, Les raisins de la colère. Et les raisins de la colère, c'est ce qui se passe à Moissac. C'est-à-dire, vous avez des hordes de pauvres gens qui arrivent pour arriver dans un Eldorado qui n'existe pas et qui font monter, effectivement, les tensions locales.
Il y a une certaine forme de dépression chez les Moissagais.
Il y a une dépression chez les Moissagais. Mais il y a surtout le constat qu'il faut une politique urbaine dans cette ville. Il faut rénover le centre-ville. Il faut faire en sorte qu'il y ait à nouveau de la mixité sociale dans le centre-ville, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Si on n'arrive pas à ça, mais ça, c'est prendre à bras le corps de vraies politiques publiques. C'est effectivement peut-être racheter certains, de la part de la puissance publique, racheter certains bâtiments, les revendre à des personnes qui ont des projets. C'est ce qu'ont fait certaines villes du Nord. Hein, pour un euro symbolique, ils ont vendu des maisons, des magasins à des gens qui avaient des projets et qui avaient effectivement un financement pour le faire. Il faut agir concrètement. Il ne faut pas poster sur Facebook des choses qui ne font que jeter de l'huile sur le feu.
Franck Bousquet, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de CFM Radio. Vous reviendrez, on fera un petit point régulièrement.
Volontiers, avec
vous
merci
sur,
beaucoup.
Le devenir de Moissac, avec bien sûr un droit de réponse qui sera offert au maire de Moissac, Romain
Lopez. Je n'en doute pas.
Voilà.
Merci, c'était Kader Ayoub pour Politiquement Votre, qui recevait aujourd'hui Franck Bousquet d'Europe Écologie Les Verts pour le Tarn-et-Garonne.